Bonsoir. Publication du rapport du mécanisme conjoint élargi des vérifications des frontières pour la région des Grands Lacs, relatif aux affrontements entre les militaires rwandais et les FRDC les 11 et 12 juin dernier sur les deux collines des Kanyesheja au nord Kivu. Processus électoral en RDC, la CENI maintient les calendriers des élections urbaines, municipales et locales tels que publiés. Par ailleurs, plus de 120 forces sociales et politiques de l'opposition décident de traduire le président de la CENI en justice. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Ludor Balekela, il est éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et RTNC en cible. Bonsoir Ludor Balekela.
Bonsoir cher ami, merci.
Ambroise Mamba, secrétaire de rédaction à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Léon Mwenze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant de Kolwezi au Katanga. Bonsoir Léon Mwenze.
Bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Publication du rapport sur les affrontements des Kanyesheja, la CENI maintient le calendrier des élections locales pendant que les partis de l'opposition portent plainte contre son président. Nous allons voir comment la presse a analysé cette actualité à travers cette revue de presse que nous présente François Kadima.
Commençons cette revue de presse par la référence plus qui se fait écho de la déclaration du général Kalume au sujet des incidents frontaliers du 11 juin 2014. C'est le Rwanda qui a attaqué nos positions. Et à propos de la clarification des frontières entre la RDC et ses voisins de Grand Lac, la tempête des tropiques estime que d'importantes mesures de protection s'imposent. Pour sa part, Forum des As note que les 5 soldats congolais tués par les Rwandais l'ont été par balles et à coups de machette. C'est qu'a révélé l'autopsie confie le porte-parole du gouvernement congolais. Concernant la CENI, qui maintient le calendrier des élections urbaines, municipales et locales telles qu'est publiées, la Prospérité rapporte au sujet de la rencontre CENI-parti politique les propos de Malou Malou. Le calendrier ne peut jamais être consensuel. De son côté, le quotidien Le Groupe L'Avenir titre « Le calendrier électoral, Malou Malou, c'est des douanes, la balle dans le camp du Parlement ». Dans les autres sujets d'actualité, le palmarès revient sur la fin hier de la session d'examen d'État 2014. Environ 600 000 élèves devraient prendre part à ces épreuves. Se penchant sur les déroulements du mondial, Forum des As signale que pour le Portugal, le miracle n'a pas eu lieu et que Cristiano Ronaldo a marqué pour rien. Dans le même registre, le quotidien annonce que l'Uruguayen Luis Suarez est suspendu pour 4 mois à cause de son coup de dent dans l'épaule du joueur italien Giorgio Chiellini lors de la rencontre opposant les deux nations.
Merci François Kadima. Un commentaire Louis-Dor Balekela. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et RTNC en cycle. L'actualité, c'est aussi la prestation des équipes africaines au Mondial 2014 au Brésil.
Bien, vous savez, l'Afrique souffre toujours de ce complexe d'infériorité raciale, permettez-moi l'expression, dans la mesure où on observe que depuis la nuit des temps, les pays africains, lorsqu'ils s'organisent au niveau des compétitions nationales, recourent toujours aux entraîneurs blancs comme s'ils étaient les seuls détenteurs du savoir sportif, je voulais dire footballistique. Et dans la plupart des cas, on voit qu'il y a une sorte de trafic d'influence, même de traitement inhumain que ces entraîneurs blancs exercent sur les joueurs noirs. On l'a vu au Congo Kinshasa où l'entraîneur a eu des différends avec un joueur qui était pourtant adulé du public sportif et même de l'ensemble de ses coéquipiers qui n'étaient pas alignés tout simplement parce qu'il avait des divergences avec l'entraîneur. Ça se passe aussi dans quelques rares cas avec les entraîneurs noirs, mais cette tendance à croire que les entraîneurs blancs peuvent apporter du bonheur aux équipes africaines, je crois que c'est vraiment regrettable. On l'a vu dans beaucoup de cas. Mais il y a aussi cette pathologie qui consiste pour les joueurs à mettre au second plan l'intérêt national et privilégier les intérêts que j'appelle ventriotique, les intérêts du ventre, en réclamant des primes avant d'aller jouer les matchs. Cela s'est instauré comme pratique dans beaucoup de pays africains.
Surtout au Cameroun.
Au Cameroun, on l'a vu. Au Congo, ici, n'en parlons pas, même si le Congo ne participe pas à cette Coupe du Monde Brésil. Donc, c'est tout cela constitue en fait des freins pour l'épanouissement du football au niveau de l'Afrique. Et donc, un appel mérite d'être lancé ici à tous les joueurs au niveau continental pour que l'intérêt national prime sur les intérêts personnels et qu'on ne voit pas d'abord l'argent, mais surtout ce que la population et les peuples africains attendent de nos représentants dans différentes compétitions régionales, continentales et même mondiales pour le cas de figure.
Merci Ambroise Mamba, secrétaire des relations à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Deux des cinq équipes africaines sont qualifiées en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et cela peut s'expliquer par quoi? Une mauvaise préparation? Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela. Ludor a évoqué les complexes d'infériorité raciale et puis le fait de mettre en exergue l'intérêt ventriotique. Voilà, selon lui.
Oui, justement, d'abord il faut saluer, c'est une première pour l'Afrique qui est deux représentants au niveau des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'Algérie et le Nigeria. Bon, les Ghanais étaient à deux doigts de la qualification, mais ils ont manqué la concentration, ils ne se sont pas concentrés sur le match du Portugal. Peut-être ils pensaient peut-être que l'Allemagne et les États-Unis avaient une entente pour jouer pour un match nul ou avoir un match de complaisance. Peut-être pourquoi ils ne s'étaient pas donné carrément, mais si c'était donné, ils auraient dû l'emporter et puis se qualifier pour l'utilité des finales, ce serait un miracle. Et bon, ce que lui leur a dit n'est pas à négliger, il faut le prendre vraiment au sérieux. J'ai appris même que le président camerounais a demandé qu'on puisse diligenter une enquête pour qu'on puisse établir les responsabilités par rapport à cette débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde. Mais il faudrait dire aussi que c'est un problème de moyens par rapport à l'Afrique. Il faut qu'il y ait suffisamment de moyens, qu'on puisse se mettre du sérieux au niveau de nos fédérations de football et qu'on puisse aussi organiser des vrais championnats nationaux. Si on a des vrais championnats nationaux, je pense qu'on peut relever les niveaux du football congolais et il n'y aura plus de complexes vis-à-vis des joueurs occidentaux. Et de cette manière-là, on peut arriver jusqu'au niveau de la demi-finale, pourquoi pas jouer la finale, pourquoi pas l'emporter même cette Coupe du Monde.
Ce qui est possible d'ailleurs.
Ce qui est possible.
Léon Moïse, vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant des Colés au Katanga. Comment vous analysez la qualification du Nigeria et de l'Algérie, hein, des équipes africaines qui vont représenter ces continents dans cette phase?
En fait, pour moi, c'est une avancée significative pour les pays africains. Bon, de voir le Nigeria et l'Algérie et s'est qualifié au huitième de finale. Mais je voudrais évoquer une chose, hein, c'est souvent je suis déçu par la plupart des pays africains, hein, elles ne font pas grand chose au niveau de cette Coupe mondiale. Là je note aussi leur préparation, parce que je vous dis que il y a leur préparation souvent des équipes africaines, et là nous avons vu, hein, dernièrement, on a pu dépêcher même l'argent pour une équipe, c'est pour dire que les pays n'étaient pas prêts pour arranger le tout. Je voudrais dire que nous devons prendre les choses au sérieux, surtout nos dirigeants africains. Ils s'occupent tellement de la politique, mais le sport est presque un domaine non aligné.
Ludo Balkelaï, l'autre actualité, c'est la fin de l'édition 2014 de l'examen d'État en RDC qui s'est passé apparemment sans incident.
Oui, c'est vraiment d'ailleurs, en fait, tout à fait. C'est quelque chose d'important qu'il faut saluer, des avancées qu'on enregistre depuis un certain temps en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'éducation. Et les examens d'État se sont déroulés, on a vu. Ce que j'ai apprécié, c'est cette nouvelle philosophie que les autorités policières et même gouvernementales ont instaurée, contrairement aux années passées. On a vu à la fin des épreuves, au dernier jour, les élèves marcher avec politesse, sans poudre au visage ni sur la tête, et j'ai noter par exemple dans mon quartier que des maisons qui ont hébergé des élèves qu'on appelle maquisards, aussitôt après les examens, ont été vidées. Les élèves sont rentrés directement dans leur famille. Et l'instruction a été donnée pour qu'aucun élève finaliste ne soit trouvé dans des débits de boissons dans la soirée, sous peine d'être arrêté par les éléments de la police. Je crois que c'est une très bonne chose. Ça, c'est du point de vue de la forme. Dans le fond, maintenant, il faudra qu'on voit si les résultats qui vont découler de ces examens après proclamation correspondent effectivement à la formation au niveau, atteint par les élèves. Parce que dans la plupart des cas, vous trouverez des élèves qui ont fait des distinctions, qui ont été proclamés des lauréats, mais quand vous allez dans le fin fond des choses, vous trouvez qu'il y a beaucoup de lacunes en ce qui concerne la formation des élèves. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre la matière transmise, mais aussi la performance des élèves au terme de leurs études, donc du cycle secondaire. Et donc, je crois que la République démocratique du Congo, vous l'avez suivi, le Premier ministre est en Belgique après avoir été auparavant en Asie pour pouvoir partager avec les pays amis l'expérience de la RDC en termes d'éducation. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il faudrait que la gratuité de l'enseignement devienne effectivement une réalité. Il faudrait que la prise en charge des enseignants cesse d'être l'affaire des parents qui en souffrent des années durant, que ça devienne vraiment une responsabilité de l'État qui est censé vraiment pourvoir aux besoins aussi bien des élèves que des enseignants pour une formation idoine et qui soit capable de répondre aux attentes de la société.
Ambroise Mamba, un mot par rapport à la fin hier de l'édition 2014 de l'examen d'État.
J'ai aimé le déroulement, mais je déplore tout simplement que comment? Par contre, notre correspondant nous a rapporté que des élèves ont déchiré l'uniforme comme pour faire les adieux au bleu et blanc. Certains parents étaient mécontents. Ce ne sont pas des pratiques à soutenir. Je pense que la conduite, de manière générale, a été bonne. Les élèves se sont comportés en responsables, comme l'a dit Louis Laure. Et cette fois-ci, il faut maintenant voir les résultats que ça va donner. Si ça va encore nous réjouir, je pense que nous allons une fois de plus saluer.
L'ONZE, comment les élèves se sont comportés hier après l'examen d'État à Colosi?
Oui, à Colosi, tout s'est bien passé. Hein. Je voudrais rappeler qu'environ 8000 finalistes ont terminé, en fait, ont passé les examens dans la province éducationnelle de Katanga 4, mais néanmoins dans les cinq fonds, notamment dans les districts du Lualaba. Et qui compose cette province éducationnelle, vous voyez l'acheminement de matériel ou des mâles pose problème. Il n'y a pas de routes viables. Tout de même, les examens se sont déroulés sans incident, même hier, la fin de ces examens, vraiment. On voyait le bleu-blanc un peu partout, sur toute l'étendue de la ville d'écologie. Mais l'écologie aussi tiennent à ce que la promesse du gouvernement à travers son ministre de publier les résultats le même jour soit finalisée. Voilà, ça c'est juste les souhaits de collégiens.
Merci. Notre premier thème de ce soir, publication du rapport du mécanisme conjoint élargi des vérifications des frontières pour la région des Grands Lacs relatif aux affrontements entre les militaires rwandais et les FRDC les 11 et 12 juin dernier sur les deux collines des Kanyesheja au nord Kivu. Le mécanisme conjoint élargi des vérifications des frontières pour la région des Grands Lacs a publié son rapport. Si ce dernier ne permet pas de comprendre aisément ce qui s'est réellement passé ces jours-là, il indique néanmoins que les deux collines des Kanyesheja où s'étaient déroulées les affrontements se situent sur le territoire congolais, contrairement aux déclarations de Kigali. Innocent Olinga pour les détails.
Ces rapports du mécanisme conjoint élargi de vérification reproduisent les déclarations et interviews de deux officiers de la RDF et des FRDC qui s'accusent réciproquement. Lorsque la RDC, par exemple, affirme que les militaires rwandais ont traversé la frontière et enlevé cinq militaires congolais qu'ils ont exécutés, le Rwanda, de sa part, soutient que ces militaires ont péri dans une embuscade l'air tendu sur le territoire rwandais. Mais les enquêteurs du mécanisme conjoint de vérification constatent, eux, qu'il n'y a pas de preuves visibles de douilles et d'impact sur les présumés lieux d'embuscade et recommande une autopsie détaillée sur tous les cadavres pour déterminer véritablement la cause et les types de décès. La carte géographique qu'ils ont annexée au rapport montre que la colline de Kanyesheja 2 que les Rwandais revendiquent est autant sur le territoire congolais que Kanyesheja 1. Les rapports recommandent à la CIRG de convoquer une réunion d'urgence sur les questions frontalières entre les pays membres, en particulier entre les Rwandais et la RDC. Signalons que ce rapport publié le 17 juin dernier n'a pas été signé par les Rwandais.
À propos de ces affrontements entre les militaires rwandais et les FRDC sur les collines des Kanyesheja le 11 et le 12 juin dernier, les médecins congolais ont procédé mercredi dernier à Goma, au Nord Kivu, à l'autopsie des 5 cadavres que la Croix-Rouge rwandaise a remis à la Croix-Rouge congolaise. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, les résultats de cette autopsie sont flagrants. Seulement, de tous ces cadavres, Lambert Mende ne reconnaît qu'un seul comme étant celui d'un militaire congolais. Il émet des réserves sur les 4 autres qui doivent être bien identifiés. Lambert Mende-Omalanga est au téléphone dénonçant Olenga.
Cette autopsie révèle que tous les 5 ont été tués par des plaies mortelles à la tête. 3 ont reçu des balles dans la tête. 2 ont reçu des coups de machette qui les ont tués toujours à la tête. Il y a eu mutilation de cadavres pour certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'on a tiré sur les corps après qu'ils soient décédés. Tout indique qu'il y a eu exécution et puis mutilation de cadavres.
Et maintenant qu'il est établi par ces rapports que ce sont des militaires rwandais qui ont traversé la frontière congolaise et qu'ils ont enlevé des militaires congolais, qu'ils ont assassinés, quelle est la suite? Y aura-t-il des sanctions contre les Rwandais? Y aura-t-il des réparations?
Mais évidemment, tout crime appelle sanctions et nous entendons bien, en ce qui concerne notre militaire, que les sanctions vont devoir être prises à un niveau ou à un autre. Nous y veillons. Et en ce qui concerne les 4 autres, il faut d'abord les identifier. Il ne faut pas aller trop vite en besogne comme ça. Pour dire les 5 Congolais, etc. Nous ne savons pas encore. Nous sommes en train de les identifier. Nous verrons bien qui ils sont et nous espérons que là aussi, réparation et justice devront être faites.
Louis Dorbalekeraï, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Les deux parties s'accusent mutuellement. La RDC affirme que les militaires rwandais ont traversé la frontière et ont enlevé des militaires congolais qui ont été par la suite exécutés. Et tandis que les Rwandais affirment que ces militaires sont tombés dans une embuscade sur le territoire rwandais. Et comment vous analysez les accusations contenues dans ces rapports?
Bien, le rapport entretient lui-même, par essence, un flou artistique parce que il y a encore le doute qui persiste et qui devra être levé au terme, comme on l'a suggéré, d'une réunion d'urgence qui devra mettre autour d'une même table le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais cela étant, que le Rwanda reconnaisse que les 5 militaires ont été tués au cours d'une embuscade, et ceci permet déjà facilement de remonter la filière quant à l'identité des victimes. Donc ça devient clair que ce sont des militaires congolais. Alors, une autre facette de la question, c'est de savoir, l'autopsie que l'on a faite indique tout simplement qu'un militaire est congolais et les 4 autres, il faudra mettre du temps pour les identifier. C'est là que je parle d'un flou artistique et je pense qu'à cette étape des choses, pour être beaucoup plus responsable en tant qu'homme des médias, il faudra donner beaucoup plus de chances à la poursuite de cette enquête pour nous dire effectivement ce qu'il y a eu et est-ce que les 4 autres victimes sont congolaises ou ne le sont pas. Mais à vrai dire, même si c'est un Congolais, militaire congolais qui est mort, c'est quand même une perte en vie humaine. On ne peut pas le tolérer parce que la vie humaine est sacrée. Et donc, si le Rwanda reconnaît qu'il y a eu embuscade et que parmi les victimes, il y a un militaire congolais en attendant qu'on identifie les 4 autres, nous pouvons d'ores et déjà parler de façon anticipée d'une sorte de meurtre avec préméditation qui appelle sanction, comme le ministre des Médias l'a dit.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes secrétaire des rédactions à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Même si ce rapport entretient un flou artistique, comme l'a dit Ludor Balekelaï, mais il indique certaines choses, notamment que les 2 collines de Kanyesheja, où s'étaient déroulés les affrontements, se situent sur le territoire congolais, contrairement aux déclarations du Rwanda. Et aussi, un autre facteur, c'est que les enquêteurs qui ont été sur place n'ont trouvé aucune preuve d'aiguille ou d'impact sur les présumés lieux où les militaires congolais seraient tombés dans une embuscade.
Oui, c'est ce qui m'intéresse moi particulièrement, ces indications. Il s'agit du mécanisme conjoint des vérifications des frontières. Conjoint, ça veut dire qu'il y a des représentants rwandais dedans. Donc ce rapport a dévoilé le mensonge du Rwanda. Une fois de plus, le mensonge du Rwanda, c'est ce rapport qui vient de nous dévoiler. Le Rwanda accusait les militaires congolais d'avoir fait incursion sur leur territoire, mais ce qui n'est pas vrai selon ce rapport. Ça veut dire que dans les deux collines dont on parle, c'est sur le territoire congolais. Ce sont alors les Rwandais qui sont entrés sur le territoire congolais pour encore semer la mort. Et je comprends une fois de plus que les Rwandais sont toujours intéressés par nos ressources. Je n'en vois pas aucune au Rwanda. Il y en a plus, beaucoup plus chez nous. Voilà pourquoi ils tuent, ils provoquent des rébellions pour piller nos ressources.
Il faut relever le fait que le Rwanda n'a pas reconnu, n'est-ce pas, il a resté les conclusions contenues dans ces rapports.
Il s'agit d'un rapport du mécanisme conjoint. Le mécanisme est conjoint, ça veut dire qu'il y a des représentants rwandais dedans. Si le régime de Kigali ne rejette le rapport, je comprends que c'est une position politicienne, tout simplement. Mais le plus important ici, ce sont les sanctions qu'ils font prendre contre le Rwanda. Le ministre de la Communication et Média l'a dit, nous attendons que des sanctions soient prises à un niveau comme à un autre, et j'en propose trois ici. Il y a l'isolement, il y a l'embargo, il y a des sanctions économiques. Il faudrait que le Rwanda soit finalement isolé. Il faudrait que le Rwanda puisse subir des sanctions économique. Le Rwanda ne peut pas quand même considérer que le monde entier est fou à ses yeux, qu'il continue à envier les ressources d'un pays, provoquer des rébellions. Et vous voyez les chefs, les rebelles qui sont là, les Cheka. Ils ont tous femmes et enfants au Rwanda, mais ils viennent au Congo pour piller les ressources, pour aller organiser entre guillemets le Rwanda. Et c'est là que je dis qu'il faut que les sanctions s'en suivent. Voilà, puisque le Rwanda a rejeté le rapport, il faudra qu'on puisse quand même organiser cette réunion, comme on l'a dit, on organise cette réunion, une commission mixte élargie à d'autres pays. Comme ça, on prouve noir sur blanc que les deux collines appartiennent au Congo. Et comme ça, les Rwandais vont s'expliquer comment ils sont entrés en RDC et comment le militaire congolais a pu trouver la mort.
Lomwenze, rédacteur en chef de la radio communautaire libre émettant des Kolwezi au Katanga, les enquêteurs ont recommandé une autopsie détaillée sur les cadavres pour déterminer les causes réelles des décès. Et cette autopsie a été effectuée mercredi dernier à Goma. Elle indique qu'il y a eu exécution. Et en réaction, le ministre Mende, le porte-parole du gouvernement, affirme qu'il espère que les sanctions vont être prises contre le Rwanda.
Oui, mais il convient de dire que c'est un rapport du mécanisme des investigations. Et ce rapport a été signé ou approuvé par 10 pays africains. Donc, ce sont les pays qui sont dans la région des Grands Lacs qui ont parlé des affrontements. Et en fait, les rapports sont clairs. Il n'y a pas eu de vie sur la partie de Kanyeshe 2. C'est pour dire en clair, en fait, il y a eu un enlèvement. Quand bien même le Rwanda soutient que tout s'est passé dans le district de Moussa Samana, un district rwandais, mais non, mais nous faisons quand même confiance à ces rapports que les militaires congolais ont été enlevés et exécutés. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est depuis l'annonce du dépôt de FDLR, tout ça, vous avez dit que les Rwandais voudraient s'assurer que sûrement
les désarmements des FDLR,
les armes. Donc en fait, allô?
Oui, j'ai précisé qu'il s'agit du processus qui doit aboutir au désarmement des FDLR et éventuellement à leur rapatriement dans leur pays d'origine.
Oui, c'est ce que j'ai dit, que en fait le Rwanda envoie des émissaires pour s'assurer réellement que cette opération est vraie. C'est pourquoi tout le temps il y a des incursions. Donc le monde entier connaît bien que le Rwanda, tout le temps, il est là pour déranger, pour gêner la République démocratique du Congo afin qu'il puisse avancer. Voilà, donc nous attendons le rapport final, mais du moins, nous pouvons dire que les rapports conjoints ne peuvent pas aller au-delà. Vous voyez, même le Rwanda n'a pas même signé à ces rapports. C'est pour vous dire que tout le temps, même lorsqu'il faisait des instructions au Congo, les Rwandais disaient toujours que non, je ne suis pas au Congo. Mais finalement, avec les rapports, on a dû croire que le Rwanda est l'est de la République.
Léon Mosé, vous pensez que cette fois-ci, le Rwanda pourra être sanctionné?
Bon, ça c'est le souhait de tout le monde. Mais je sens que Et ce côté-là, souvent, il y a des impunités. Vous savez, dernièrement, il y a eu 17 pêcheurs que le Rwanda a pris. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait des sanctions.
Voilà. C'est trop, je crois. Ludo Barekela, une certaine opinion pense qu'une fois de plus, la RDC a réagi timidement, alors qu'elle devait réagir avec beaucoup de fermeté. Comment vous réagissez par rapport à cette opinion?
Bon, timidement, ça dépend de celui qui émet cette opinion, mais à ce que je sache, la République démocratique du Congo n'a jamais été un État belliqueux. Et quand on fait une lecture diachronique de deux dernières décennies, comme Léon l'a dit, on se rend compte que c'est toujours le Rwanda qui fait des incursions sur le sol congolais. Et même si la RDC avait levé l'option de faire une incursion sur le sol rwandais, ce n'est pas avec 5 militaires. Le fait d'ailleurs que le Rwanda reconnaisse que ces militaires sont tombés dans une embuscade sur le territoire rwandais, je le disais tout à l'heure, confirme que les 4 autres sont bel et bien des Congolais. Alors maintenant, il s'agit cette fois-ci d'établir maintenant l'appartenance géographique, la délimitation géographique de deux localités disputées pour qu'on sache qui a été le premier à fouler sur le sol de l'autre.
Alors, donc en fait, ces problèmes remettent une fois de plus sur la table cette question des frontières
de la colonisation.
Pourquoi, à votre avis, les États africains n'ont jamais eu le courage de proposer des réponses par rapport à cette question?
Mais c'est une question, je crois, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est une question déjà réglée depuis l'époque coloniale. Et le tracé de la frontière congolaise, le long du Rwanda, dans la partie orientale avec le Congo, ça n'a jamais posé problème. C'est plutôt le Rwanda qui, faute d'espace consistant pour héberger sa population au regard de la densité démographique, cherche toujours à s'accaparer d'une certaine portion de la République démocratique du Congo. C'est ça la thèse même de la balkanisation, c'est ça le fondement même de la thèse de la balkanisation. Je ne pense pas qu'il fallait que la RDC réagisse outre mesure, d'autant plus qu'il y avait une enquête en cours. Mais ce que je peux comprendre en filigrane, c'est que c'est une sorte de fuite en avant pour le Rwanda, qui a peur de voir les FDLR, comme Léon l'a dit, rentrer au de l'autre côté. Et la responsabilité première, je dois insister là-dessus, et ceci m'engage, incombe à la communauté internationale, qui hésite toujours à sanctionner le Rwanda, quand bien même elle dispose des preuves tangibles de tout ce que le Rwanda a commis comme crime sur le sol congolais, en multipliant les veuves et les orphelins sur le sol de nos ancêtres. Et cette communauté internationale est toujours complaisante. Encore une fois de plus, je ne pense pas qu'il faille encore compter sur elle pour sanctionner le Rwanda en ce qui concerne ce dernier cas. Il appartient plutôt aux Congolais de se prendre en charge et de voir dans quelle mesure ils peuvent assurer l'indépendance et l'intégrité territoriale de leur pays.
Ambroise Mamba, qu'est-ce que vous proposez pour prévenir ce genre d'incidents entre les Rwanda et la RDC? Il faut rappeler ici que ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents sur nos deux frontières.
Bon, le Rwanda a un régime militariste, un régime qui veut être hégémonique, toujours faire des incursions en RDC, puisque sans les ressources de la RDC, le Rwanda n'est rien. C'est pourquoi le Rwanda cherche toujours par tous les moyens pour faire des entrées en RDC, provoquer des rébellions, piller les ressources et puis s'organiser, construire son pays. Un régime, vous savez, Kagame, il y a un problème de leadership en Afrique centrale. Il veut être celui qui est à la tête de ce leadership. C'est lui qui est pratiquement le bon élève autrefois des États-Unis, même si les États-Unis sont en train de le rejeter actuellement. Mais c'est pourquoi moi j'insiste par rapport aux sanctions. Les sanctions doivent être prises contre le Rwanda. Il faut que les autorités rwandaises soient isolées. Et les Rwandais refusent le retour ou bien le rapatriement de FDLR parce que le régime se sent menacé par le retour de FDLR. On va démocratiser le pays et ainsi de suite. Il y aura un dialogue inter-rwandais. C'est ça. Voilà pourquoi Kagame a même promis de tuer les FDLR. Est-ce que le monde entier ne connaît pas ça? Les États-Unis connaissent. Les Nations Unies connaissent que le président rwandais a promis de tuer les FDLR. Et c'est là qu'on veut qu'on puisse les tirer un peu aux oreilles, qu'on puisse sanctionner les Rwandais véritablement. J'ai proposé 3 sanctions. Qu'on prenne un embargo contre le Rwanda, qu'on puisse isoler les autorités rwandaises et qu'on puisse prendre des sanctions contre ce pays. De cette manière-là, on va un peu réduire cette hégémonie du Rwanda contre la RDC. Et je pense que par rapport à la RDC, nos autorités doivent aussi maintenir la pression sur le plan international pour obtenir ces sanctions justement.
Oui, Léon Moïse, le Rwanda doit être sanctionné. Vous ne pensez pas qu'à cet effet, il faut redynamiser la diplomatie congolaise?
Oui, il faut redynamiser la diplomatie congolaise, bien sûr. Hein. En redynamisant sa diplomatie, vous sentez que le Rwanda, il veut toujours avoir raison. Donc c'est pour dire que nous faisons foi à la communauté internationale. Mais pour les mécanismes ici, il faut que la communauté internationale pèse beaucoup. Parce que, vous voyez, Guy Maté, dernièrement, j'ai suivi un porte-parole de la communauté internationale. Il voudrait juste justifier que Kanyesha 2 était du côté du Rwanda. Mais c'est juste une polémique, cette localité. Pourtant, c'est une localité de donc, nous avons la conférence de Berlin qui justifie tout et qui donne raison que vraiment la terre congolaise lui appartient et personne ne peut pas faire des excursions.
Merci.
Donc, ce qu'il faut, la communauté internationale doit peser de tout son poids afin de tous les deux côtés que tout soit respecté.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, processus électoral en RDC. La CENI maintient le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, tel que publié. Par ailleurs, plus de 120 forces sociales et politiques de l'opposition décident de traduire le président de la CENI en justice. Décision contenue dans une déclaration lue mercredi dernier par le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, et soutenue, entre autres, par l'UNC, les CID, le RCDKML et l'UDEMO. Des détails avec Askin Zigiatayoro.
Plus de 120 signataires se sont accordés sur une plainte à déposer ce jeudi à la Cour suprême de justice contre le président de la CENI. L'abbé Malumalu est accusé d'atteinte aux droits garantis aux particuliers et violation des lois de la République. L'UDEMO de Nzanga Mobutu dit appuyer cette plainte pour une cause qu'elle qualifie de juste. Bernard Biando, cadre de l'UDEMO.
Monsieur Malumalu, c'est un monsieur dangereux qui veut mettre du feu à notre pays inutilement et qui, au nom de l'indépendance de la CENI, ne peut pas prendre tout un pays en otage. Pas été élu, il a été nommé. Mais quand on est nommé, on peut être révoqué. C'est pourquoi l'UDEMO exige, comme la plupart d'autres partenaires qui viennent de signer cet acte d'engagement, que M. Malumalu puisse reconsidérer son calendrier.
Le secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe dit croire à cette action commune de toute l'opposition, Bertrand Ewanga.
Nous sommes unis pour la libération de notre peuple et de notre pays. C'est quoi cette fois-ci nous sommes décidés? Parce que s'il n'y a pas un effort, et c'est le pays qui disparaît.
À Fatima, les signataires ont pris l'engagement d'organiser prochainement des meetings populaires et des marches pacifiques pour, je cite, faire triompher la démocratie en RDC. Fin de citation.
Ambroise Mamba, après la pétition initiée par l'opposition contre l'abbé Apollinaire Malumalu, la même opposition vient de porter plainte contre le président de la CENI. Comment vous analysez cette démarche de l'opposition?
Bon, je ne crois tellement pas à l'aboutissement de cette démarche de l'opposition par rapport à ce degré-là d'inféodation de notre de pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Et voilà pourquoi je ne crois pas tellement à l'aboutissement de cette démarche, du dépôt de cette plainte. Mais je considère tout simplement qu'il s'agit d'une pression de la part des opposants sur l'abbé Malumalu par rapport à son calendrier. Et je considère tout de même qu'il s'agit d'un bras de fer qui s'installe désormais entre la CENI et les opposants. Ce bras de fer peut avoir des conséquences graves sur le processus électoral.
Parce qu'ils sont des partenaires.
Ce sont des partenaires. Donc, dans toute élection, il y a des partenaires, il y a des acteurs nationaux. Et parmi les acteurs nationaux, ces processus électoraux, et on a toutes ces parties-là de l'opposition qui ont fait bloc à travers ce regroupement politique. Mais si Malumalu ne les entend pas, ça signifie tout simplement que Malumalu décide de faire une certaine dictature. Il est dans la dictature et il préfère aller aux élections de cette manière-là sans d'autres partenaires. Or, l'indépendance de la CENI, l'indépendance de Malumalu doit être prouvée au travers de ces différents. Et quand on lui demande un calendrier consensuel, moi je comprends, il a dit qu'il n'y a pas de calendrier consensuel. Il peut avoir raison, mais il a tort. Parce que le calendrier ne pose pas problème. Ce sont les implications du calendrier qui posent problème. Donc, les implications du calendrier qu'il a publié, nous sommes dans quel cycle électoral? Il a parlé des arriérés électoraux de 2006. Alors, or, les arriérés électoraux
2011.
De 2011. Mais s'il parle des arriérés électoraux de 2011, nous sommes dans quel schéma? On avait déjà commencé par la présidentielle, les législatives. Il fallait descendre les provinciales.
provinciales, les sénatoriales. Lui saute les sénatoriales et les provinciales, il prend les locales. C'est quel schéma qu'il nous propose? C'est un désordre organisé. Voilà pourquoi nous disons que ça ne fait pas partie des arrières électoraux de 2011. Il aurait peut-être parlé des arrières de 2006. Et il a compris que 2006 fait partie de la première législature qui est déjà issue. Nous sommes pendant la deuxième législature. Voilà un pays qui nous embrouille. Et quand il nous embrouille avec ça, je pense qu'il donne raison d'une certaine manière aux opposants qui en veulent à lui. Et voilà pourquoi il doit les écouter, justement, pour avoir ce calendrier consensuel. Les consensus doivent se dégager au travers du cycle électoral. Le cycle électoral 2011, c'est-à-dire après la présidentielle et législative nationale, nous devons directement descendre au provincial. Mais puisqu'il y a des calculs politiciens par rapport au changement du mode de scrutin, par rapport à l'élection des députés provinciaux, il a compris qu'il fallait laisser le temps à la majorité présidentielle de pouvoir amener une loi portant révision à la constitution au niveau du Parlement. Comme ça, il a la possibilité de publier un autre calendrier électoral. C'est là que ça pose problème. Est-ce que vous vous rappelez que le chef de l'État avait fait un discours devant le Congrès souhaitant que l'élection des députés provinciaux s'efface par suffrage universel indirect? Et juste après lui, Maluma lui a publié aussi les calendriers dans ce sens. C'est comme s'il y a une certaine connivence entre les pouvoirs et la CENI.
Merci Ludor Balekelaï. L'abbé Maluma Lou, accusé d'atteinte aux droits garantis aux particuliers et violation des lois de la République, cela va aboutir à quoi? Ça ne va pas donner lieu aux débats interminables sur l'interprétation des textes finalement, et on risque de ne pas aboutir à une solution adéquate.
De toute évidence, moi je ne voudrais pas m'inscrire dans cette démarche, n'est-ce pas, qui consiste à faire le prophétisme sur l'avenir, parce que il est scientifiquement prouvé que le prophétisme n'a pas de fondement, et donc n'étant pas en mesure de m'inscrire dans cette démarche, je m'en vais simplement dire que jusque-là on est à une étape de prestation d'intention des uns vis-à-vis des autres. Et pour le cas de figure, je voudrais d'abord saluer l'initiative et le courage de cette frange de l'opposition de saisir la Cour suprême de justice pour un procès contre l'abbé Marmalou. C'est une démarche tout à fait légale, contrairement à la pétition qui était initiée au départ par Martin Fayoulou, qui n'avait pas de fondement légal. Mais au moins, c'est que cette frange de l'opposition réunie au sein de ce qu'on appelle les forces politiques et sociales pour l'unité d'action, cette initiative est vraiment constitutionnelle parce que l'abbé Marmalou et son bureau ont prêté serment devant la Cour suprême de justice, et pour les déchoir, c'était ça la voie qu'il fallait suivre. C'est ce que l'opposition ignorait depuis toujours.
Pourquoi, à votre avis, c'est la personne de Maluma en tant que président de la CENI qui est au centre du débat et non la CENI en tant qu'institution? Parce que c'est pas Maluma Lou qui impose son point de vue. Maluma Lou ne décide pas seul. C'est la CENI qui prend la décision. Oui. Et les décisions se prennent de façon concertée.
Oui, je vais vous décevoir.
Mais pourquoi ne pas cibler la CENI au lieu de cibler l'individu Maluma Lou?
Oui, je vais vous décevoir justement en disant que c'est pas mon avis, ça. C'est l'avis des amis, des compatriotes de l'opposition. J'ai le leur conseil. J'ai dit que c'est leur droit de mettre en cause une personnalité que eux-mêmes ont acceptée. Parce que il est issu de la société civile, qu'on le veuille ou pas, c'est sous ce label qu'il a été accepté au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été investi, et puis au Parlement, on a vu aussi bien les députés de l'opposition que ceux de la majorité qui ont accepté d'installer ce bureau qui est là. Il y a même les représentants de l'opposition qui siègent au niveau de la Commission électorale nationale indépendante qui ont participé à l'élaboration de ce calendrier. Guy Maté, je crois que nous connaissons suffisamment en tant que journaliste notre pays. Quand nous voyons depuis les années 1990 avec la Conférence nationale souveraine et tout ce qu'il y a eu comme concertation ou consultation à portée nationale, il a toujours été prouvé que les Congolais se sont entendus de ne jamais s'entendre, surtout les politiciens. Et donc, si aujourd'hui Malumalu disait « Vous, classe politique, proposez-moi un calendrier consensuel », je crois qu'on mettrait encore 5 ans et on n'arriverait pas à avoir un calendrier consensuel. C'est donc une stratégie...
Pourquoi l'abbé Malumalu, comme l'a proposé Ambroise Mamba, pourquoi l'abbé Malumalu ne peut pas, n'est-ce pas,
être
disposé à ne fût-ce qu'écouter les opposants?
Non, Guy Maté, je vous rappelle qu'avant d'arriver à ce calendrier, je ne suis pas le porte-parole de l'abbé Malumalu, je réponds à vos questions en tant qu'analyste politique. Avant l'élaboration de ce calendrier, en tout cas, les archives peuvent le prouver, Malumalu et son bureau ont eu des concertations avec toute la classe politique, y compris la société civile, et c'est après ça qu'il a publié ce calendrier. Il a répondu aux acteurs politiques de l'opposition que la publication du calendrier n'est pas une prérogative partagée par la CENI avec la classe politique. Donc, il faut qu'on nous montre une disposition légale qui dit que la publication du calendrier doit être une prérogative partagée. Malmalou a mis au défi les acteurs politiques au Palais du Peuple il y a quelques jours et personne n'a pu le contredire. Alors je crois que ce qu'il faut faire ici, c'est d'éviter cette politique qui va donner l'impression finalement qu'on ne veut pas des élections dans ce pays. Si l'opposition ne s'est pas préparée, si la majorité ne s'est pas préparée, qu'on ne veut pas des élections, je crois qu'il faut qu'on laisse le peuple évoluer calmement au lieu de chercher des diatribes à gauche à droite qui nous avancent à rien. Vous allez me donner raison dans les jours qui viennent lorsque la Cour suprême de justice va donner raison à Malmalou, la même opposition va se lever pour dire non, cette justice, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, je ne dis pas qu'il fait le porte-parole de l'opposition, cette justice est inféodée au pouvoir en place, et ainsi de suite. Donc c'est ça la difficulté avec notre opposition. Et d'ailleurs, il n'y a pas une opposition monocolore dans ce pays. Il y a plusieurs branches d'opposition. Mais quel est le porte-parole de l'opposition avec qui la majorité parle aujourd'hui? C'est toujours la même opposition qui n'arrive pas à s'organiser. C'est une opposition vendable et achetable qui n'apportera jamais du bonheur au peuple congolais.
Léon Mouindé, cette plainte contre l'abbé Malumalu pourrait aboutir à quoi, à votre avis?
Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein. Un coup d'épée dans l'eau parce que la majorité présidentielle soutient l'abbé Malumalu. La majorité a dit stop vraiment à cette démarche. Et je ne pense pas si cette démarche pourra tenir. Mais moi, je crois que la CENI et même les opposants doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. Et vous savez, on doit protéger les intérêts de la nation congolaise. Mais malheureusement, au Congo, hein, nous voulons toujours protéger nos intérêts propres. Ça, c'est hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Donc, la CENI doit quand même mettre de l'eau dans son vin, ainsi que l'opposition au Congo, parce que nous l'avons remarqué, ça fait plusieurs fois, il y a eu des marches, il y a eu des marches de colère, et quoi, mais toutes ces marches ont abouti à quoi? Je crois que nous devons voir dans la vision des intérêts de la population congolaise. Les 120 partis politiques, ils ont porté plainte, mais je pense qu'au Congo, nous l'avons toujours remarqué tout le temps, les partis politiques, surtout les partis politiques de l'opposition, fléchissent souvent. Ça, c'est aussi une erreur. Vous voyez, sur les 120 là-bas, vous voyez, on va prendre les uns, et c'est comme ça que cela se termine.
Merci,
je voudrais parler un peu des arriérés, hein, l'initiative, comme Malumalu l'a dit. Moi, je crois qu'il y a eu une remise de prise entre lui et son prédécesseur, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Mais maintenant, remettre ces arguments-là, je crois que avant de faire quelque chose, il faut, avant de publier le calendrier, il devrait plancher sur ces arriérés.
Merci, Léon Mouindé. Ambroise Mamba. Merci, Ambroise Mamba. Selon Louis Balekelaï, il n'y a pas de disposition constitutionnelle qui oblige l'abbé Apollinaire Malumalu d'élaborer les calendriers électoraux en concertation avec la classe politique.
Ce n'est pas ce que les opposants lui ont demandé. Les opposants lui ont demandé les consensus par rapport aux implications de son calendrier actuel. Les implications, c'est quoi? C'est que, au lieu d'organiser les élections provinciales, il a organisé les élections locales. Et après les élections locales, il compte organiser les élections provinciales par suffrage universel indirect. C'est pourquoi on lui demande les consensus au travers de ces questions. Ce n'est pas les consensus au travers de la publication du calendrier, c'est différent. Mais ici, je voudrais dire... au travers de l'élaboration, non, c'est différent. Et ici, Louis-Dor, je voudrais dire, Louis-Dor refuse de faire ce qu'il appelle prophétisme, quelque chose comme ça. Mais non, moi, je lui demande de faire des prévisions. Quelles sont les prévisions qu'il fait? Est-ce qu'il estime qu'en une année, après 2015, la CENI est capable d'organiser les provinciales, les sénatoriales et la présidentielle, ainsi que les législatives nationales? C'est là que je dis, s'il fait des bonnes prévisions plutôt, il va comprendre qu'il y a des calculs politiciens en faveur du pouvoir en place.
Merci, c'est la fin de cette émission. Paul Badianam a été à la technique, Alain Hirong à la réalisation sous la supervision des Pélé Kipela Mondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.